affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous vous invitons à partager l'espace de quelques minutes, le quotidien d'un chercheur. Nous avons en effet la joie de recevoir dans notre studio Sébastien Balibar. Monsieur Balibar, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Balibar, vous êtes physicien, vous avez consacré l'essentiel de votre carrière à l'enseignement, mais aussi à la recherche. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et vous avez publié, voici quelques jours, non pas une somme scientifique ou un compte-rendu d'expérience, mais un petit livre intitulé « Chercheur au quotidien » et dans lequel vous nous contez avec beaucoup de simplicité, d'humour et de passion votre métier de chercheur. En l'occurrence, vous nous racontez les tribulations et les méandres et la passion qui entourait la recherche et menée autour d'une notion un peu mystérieuse, celle de supersolidité. Vous reviendrez, si vous le souhaitez d'ailleurs, sur cette notion.
Elle est un peu mystérieuse pour moi aussi, hein, ne vous inquiétez pas.
Elle est toujours mystérieuse, sont les aléas de la recherche. Mais en l'espèce, le livre est surtout consacré, parce que c'est un prétexte en quelque sorte,
bien sûr,
l'expérience consacrée à la description de votre métier de chercheur. Et là, je dois dire que nous avons été, à la lecture de votre livre, extrêmement surpris. Nous avons été même plongés dans une certaine stupeur. En effet, assez naïvement, nous pensions qu'aujourd'hui, nous imaginions que la recherche aujourd'hui, fin de 20e, début du 21e siècle, la recherche était menée par une immense machine dotée de moyens importants. On s'imaginait des couloirs blancs, une ambiance un peu futuriste, beaucoup de technologie, et le tout tendu vers un objectif défini en haut lieu, de façon pyramidale, avec de nombreuses équipes convergentes, agissant en synergie. Eh bien, pas du tout. On découvre que cette recherche sur la notion de supersolidité est menée, avec les moyens du bord, par une équipe restreinte, soutenue en tout cas par la passion, mais que tout cela se passait, pour donner le cadre, au fond d'une cave, voilà, où vous étiez reclus pendant plusieurs années. Ai-je bien compris votre livre ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais si vous me le permettez, je voudrais revenir un peu en arrière, parce qu'en fait, ce livre est une commande. C'est une commande dans une série de petits livres, courts, très bon marché, fondés par un homme absolument remarquable qui s'appelle Pierre Rosanvallon et qui est un sociologue ou un historien de la France contemporaine, hein, et qui a des idées sur la démocratie et la manière peut-être de la faire fonctionner un peu mieux à une époque où elle est quand même un peu malade, en partant de la constatation que les gens ne se connaissent pas et ils ont évidemment du mal à se comprendre. Alors, non seulement dans cette collection qui a commencé en même temps que mon livre, il y a des choses sur le chômage dans le 93, les chauffeurs-livreurs au volant de leur camion, une juge de 30 ans qui a du mal à prendre les responsabilités, etc. Mais il a pensé qu'un témoignage d'un scientifique qui raconte sa vie de chercheur, la collection s'appelle « Raconter la vie », précisément, qui raconte sa vie de chercheur, ça pourrait sortir un peu de leur tour d'ivoire des scientifiques que, en général, le grand public ne connaît pas. Et donc, n'ayant aucune idée de la manière dont on fait de la recherche, beaucoup de gens ont du mal à avoir confiance en ces chercheurs vu qu'ils ne les connaissent pas. Bon. Et donc, ce qui m'a été demandé, c'était de raconter la vie d'un chercheur, ce chercheur étant évidemment moi-même. Donc, c'est une histoire que je raconte. C'est pas un essai sur la recherche scientifique. Et c'est pour ça que, racontant ma propre manière de faire de la recherche, et non pas celle de l'ensemble des gens, je ne raconte pas, même si j'y fais un peu allusion par-ci par-là, la vie de certains autres chercheurs qui sont par exemple les milliers d'ingénieurs et de chercheurs qui cherchent une particule élémentaire nouvelle au CERN à Genève et qui d'ailleurs l'ont trouvée en 2012, un truc dont s'appelle le boson de Higgs dont beaucoup de gens ont parlé. Et dans ce genre de cas, l'installation est absolument énorme. C'est tellement grand que ça est à cheval sur à la fois la France et la Suisse. Enfin bon, la machine en question, qui s'appelle le LHC, bon, peu importe, est énorme. C'est des choses qui se planifient 10 ans à l'avance, si ce n'est davantage, qui impliquent des milliers de chercheurs qui doivent travailler ensemble d'une manière organisée. Et là, c'est certain qu'il n'y a aucune place pour l'improvisation, vous voyez. Et donc, comme en plus c'est immense, c'est très spectaculaire, et donc ce qu'on voit dans les médias ou ce dont on entend parler, c'est de ce type de recherche. De même, dans l'actualité récente, on a beaucoup entendu parler, et je m'en félicite, de cette mission astrophysique qui est allée déposer un petit véhicule sur la comète, quel est son nom déjà, Chury ou quelque chose comme ça, et le petit module Philae qui est descendu, qui ne s'est pas cassé, mais qui est silencieux pour l'instant, qui s'appelle Philae, et qui analyse la structure de la comète en question. Ça, vous voyez, à nouveau, c'est peut-être pas des milliers, mais des centaines de chercheurs qui font un travail planifié dans tous les détails, 10 ans à l'avance, si ce n'est plus. Et donc, à nouveau, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Mais... je suis un peu long peut-être, mais je m'en excuse, ou je vous prie de m'en excuser. Ah bon, tant mieux. Mais il y a le contraire absolu. Je vais prendre 2 exemples. Monsieur Andrew Wiles, qui est un mathématicien britannique, je crois, et qui a démontré, au bout de 400 ans de recherche en mathématiques, un théorème que personne n'arrivait à démontrer, qui est l'un des théorèmes de Fermat. Bon. Fermat était un ami de Pascal, vous voyez, ça remonte quand même à longtemps. Ce monsieur s'est enfermé chez lui, il a fermé toutes les portes, tous les moyens de communication, il voulait faire son travail de recherche absolument tout seul, sans communication avec personne. Donc c'est le contraire absolu, vous voyez, des astrophysiciens avec leur comète ou du CERN à Genève. Je vais prendre un autre exemple, si vous voulez. Il se trouve que ma mère était une linguiste qui s'intéressait à l'histoire de la langue française. Elle a fait l'essentiel de ses travaux le nez devant son jardin, toute seule, à réfléchir à l'histoire de la fondation de la langue, à ses développements sous forme de littérature française, historique, etc. Et donc, c'est une personne qui travaillait toute seule devant un petit bureau avec un papier. La télévision est venue une fois, remarquez. Mais enfin, on ne sait pas ça. Alors, je suis un peu au milieu de tout ça. Je fais du bricolage, on est 5. Effectivement, on est dans une cave. Je vais vous expliquer pourquoi c'est sombre et pourquoi c'est une cave, si vous le souhaitez. Et donc, tout ça pour dire voilà, qu'il y a 36 manières de faire de la recherche. Heureusement, il y a beaucoup de sortes de connaissances différentes. Et moi, c'est la mienne que je raconte. C'est une histoire que je raconte. Mon histoire à moi. Voilà.
Parce que dans les deux cas que vous avez évoqués en contre-exemple, ce sont pour l'un donc de la linguistique, pour l'autre des mathématiques. On peut comprendre qu'une personne seule, armée de sa seule puissance de raisonnement, puisse se plonger dans ces matières. Au contraire, dans vos expériences, vous insistez aussi sur le côté matériel. Votre second chapitre s'appelle bricolage. Il s'agit bien de manipuler. D'ailleurs, vous insistez à un moment, vous dites nous faisons des expériences, mais entre vous appelez ça des manipulations, des manipulations.
Oui, parce qu'on entretient des relations quasi amoureuses avec nos machines. Il faut dire qu'on y met tellement d'énergie qu'à la longue, au bout de plusieurs années, parfois plusieurs décennies, quand on a construit une machine qui permet de faire des mesures originales, on y tient amoureusement à ce qu'elle fonctionne et on vérifie. On les entretient comme, je sais pas, peut-être même comme un amateur de vieilles voitures de collection aime sa voiture et l'entretient avec soin. Bon, c'est quand même plus sérieux que ça ce qu'on fait nous. Bon. Qu'est-ce qu'on disait déjà ?
Votre machine, en l'occurrence, c'est une sorte, vous le décrivez comme un frigo, c'est un frigo, mais d'un genre un peu particulier. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors effectivement, donc je m'intéresse depuis très longtemps à la matière froide, qui a souvent des propriétés inattendues, en tout cas assez différentes de la matière qu'on connaît tous les jours. Peut-être un peu, je dis ça aussi quelque part dans mon livre, ça me fait toujours penser à un paysage quand il y a du brouillard. Alors le matin, il y a du brouillard, donc vous voyez, on ne voit pas très bien. Et puis progressivement, alors là c'est parce que le soleil se lève, etc. Le brouillard se lève et on commence à voir plein de détails. Et finalement, on voit dans le paysage un clocher, je sais pas, un tracteur, quelqu'un, une paysanne avec ses poules quelque part. Bon. De même, en fait, la matière chaude est pleine de fluctuations, ça vibre dans tous les sens. Et donc, les propriétés très fines qui vont être la conséquence du fait que, par exemple, deux atomes s'attirent ou plein d'atomes s'attirent tous ensemble, donc ils vont changer d'état, ils vont devenir plus rigides, plus magnétiques, plus mieux conducteurs de l'électricité, des choses comme ça. Ça ne se découvre que si on supprime un peu tout ce brouillard de fluctuations qui cache ses propriétés. Et donc c'est pour ça qu'on refroidit la matière pour voir les détails les plus fins de ce qu'on appelle les interactions. Donc comment deux atomes ou deux électrons ou deux particules à l'intérieur de beaucoup d'autres s'influencent l'une l'autre, interagissent, comme on dit, et vont créer un ordre différent. Alors c'est comme ça qu'effectivement on a découvert... C'est peut-être un moment, après, si vous me le permettez, de dire un mot de la supersolidité.
Volontiers, voilà. Je vais vous poser la question.
Alors la supersolidité, il faut dire que c'est un mot qu'on appelle un mot valise parfois, et qui provient de Lewis Carroll, qui parlait de portmanteau word. Donc le portmanteau, qui est un mot anglais en fait, ça fait allusion à, vous savez, à ces sortes de valises ou de housses pliantes dans lesquelles on met à la fois son pantalon et sa veste, puis on le replie en deux et puis on le tient. Bon. Et donc c'est un portmanteau word, c'est un mot qui est la fusion de deux autres. Par exemple, on dit un typuscrit pour dire un manuscrit tapé à la machine. Ou alors on dit il y a des mots comme ça qu'on fabrique avec deux autres. Bon.
Courriel.
Un courriel, voilà, je dis ça, voilà, je cherchais ce que j'avais bien pu prendre comme autre exemple dans mon livre. Un courriel qui est un courrier électronique. Bon. Alors, super solide, ça veut dire que, ça veut pas dire que c'est plus solide que les solides ordinaires.
Ça veut dire même le contraire, si j'ai bien compris.
Ça veut dire que c'est un mélange d'un superfluide et d'un solide. Alors, les superfluides, ça, c'est un truc un peu spécial. Y a trois super états de la matière qui sont justement de ces choses qui n'arrivent qu'à froid, parce qu'à chaud ça peut pas. Enfin, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, excusez-moi, mais bon. Un superfluide, c'est un fluide qui est, alors lui, est vraiment beaucoup plus fluide que les autres. Hein. Donc, de même que vous avez des fluides qui sont visqueux, comme le miel ou l'huile lourde, des fluides qui sont plus fluides, comme l'eau, l'alcool, des choses comme ça. Tout ça dépend de ce qu'on appelle la viscosité. C'est plus ou moins visqueux, alors donc c'est plus ou moins fluide. Bon. Et donc, on a découvert, il y a presque une centaine d'années, enfin 80 ans maintenant, un certain liquide qui est de l'hélium liquide et qui, en dessous d'une certaine température, perd toute viscosité. Donc, il s'écoule sans aucune résistance à travers le moindre pore. En fait, plus le petit trou est petit, plus ça coule vite à l'intérieur, ce qui est complètement étonnant. Mais enfin, la physique quantique, c'est très étonnant. Bon. Et donc, ces superfluides ont fait comprendre qu'il y avait des états très particuliers de la matière. Alors, il y a un truc qui est à peu près du même genre, qui s'appelle les supraconducteurs, bon, superconducteurs en anglais, qui sont aussi un fluide, mais ce coup-là, c'est les électrons d'un métal qui se mettent à couler tous ensemble sans aucune résistance. Bon. Et ça, c'est très intéressant parce que s'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de chauffage. Vous voyez, quand vous avez la loi d'Ohm qu'on apprend en troisième, vous dit que quand vous faites passer un courant dans une résistance électrique, ça chauffe. Bon, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Bon. Et alors, quand on veut construire un gros électroaimant, vous voyez, il faut faire passer beaucoup de courant pour que le champ magnétique soit fort. Bon. Et les gros champs magnétiques, c'est très utile, vous allez voir où je veux en venir. Et donc, on ne peut pas fabriquer des très gros électroaimants parce que le courant est tellement fort, ça chauffe tellement qu'il faudrait détourner une rivière pour refroidir la bobine en question. Bon. Sauf qu'on a découvert ces matériaux, alors par exemple l'aluminium, l'étain, puis des tas d'alliages de niobium, de germanium, de titane, plein de métaux comme ça, puis plus récemment d'autres, et des oxydes de cuivre, enfin bon, plein de matériaux comme ça, dans lesquels en dessous d'une certaine température, le courant électrique se met à passer tout seul, quoi. Bon. Donc on peut passer des millions d'ampères et ça ne chauffe absolument pas. Donc on arrive à faire des champs magnétiques formidables sans avoir besoin de détourner une rivière pour la faire passer à travers le... Vous me suivez ?
Oui,
oui, bon. Eh bien, ceci a une application fondamentale qui est le scanner IRM de tous les hôpitaux qui, depuis quelques années, ont vraiment révolutionné l'imagerie médicale. Et donc, si vous êtes déjà allé dans un hôpital vous faire un scanner IRM, on rentre dans une espèce de tuyau blanc Et donc ce tuyau blanc, c'est le cœur d'une grosse bobine, donc il y a un bobinage de fil. Ce fil, c'est du supraconducteur dans lequel il passe des courants formidables, mais ça chauffe absolument pas parce que c'est froid en fait, et les électrons deviennent super fluides, quoi. Donc il y a deux propriétés, je vais arriver à supersolide bientôt, qui sont cousines l'une de l'autre, le superfluide, un liquide pas chargé, puis le supraconducteur qui est aussi une espèce de fluide d'électrons à l'intérieur d'un solide, mais qui eux sont chargés, c'est des électrons, donc ça transporte du courant électrique, tout ça. Bien, alors récemment, il y a des gens, dont au moins un prix Nobel remarquable qui s'appelle Phil Anderson, qui est à Princeton aux États-Unis, qui a pensé qu'un solide pouvait être superfluide en même temps. Alors ça, c'est complètement bizarre et très difficile à admettre, hein, même par moi qui fais de la physique quantique depuis déjà assez longtemps.
Déjà, ce sont deux termes totalement contradictoires.
Voilà, c'est complètement... un solide, c'est élastique, ça résiste, ça coule pas, quoi. Bon. Et donc dire que ça coule même en partie, comme un superfluide sans viscosité du tout, c'est absolument incroyable. Bon. Et pourtant, c'est possible. Bon, il faut dire qu'en physique quantique, il y a des trucs bizarres. Vous savez, on peut, par exemple, quand vous lancez une balle vers le mur où il y a deux fenêtres, la balle, elle passe par la fenêtre de gauche ou par la fenêtre de droite, mais pas par les deux fenêtres à la fois. C'est ridicule. Bon. Mais quand vous envoyez des électrons dans une petite boîte avec deux petites fentes, l'électron, en fait, c'est une onde, il passe à la fois à droite et à gauche. C'est comme quand je parle, le son de ma voix qui est une onde, eh bien, il peut passer à la fois par la fenêtre de gauche et la fenêtre de droite, il n'y a pas de problème. Alors, en physique quantique, c'est bizarre, on admet que les particules, c'est des ondes, alors du coup, effectivement, bon, je veux bien raconter aussi que quand vous avez des toupies, vous savez, des toupies, moi j'aime bien les toupies, c'est joli, puis ça tient debout tout seul. Bon, mais la toupie, je la lance à droite ou à gauche, ça dépend, bon, mais je la lance pas à la fois à droite et à gauche, c'est ridicule. Eh bien, les électrons, on peut les faire tourner à la fois à gauche et à droite. Les particules quantiques, c'est bizarre. Donc, tout ça pour dire que la physique quantique étant bizarre, on a été obligé de se dire qu'il était possible qu'un solide soit aussi infiniment fluide.
Et comme vous êtes scientifique, vous ne vous contentez pas de dire « Ah tiens, c'est bizarre ».
Non, c'est tellement remarquable que ça a fait du bruit dans tous les laboratoires, cette découverte par des Américains qui pensaient avoir trouvé ça, et ce monsieur Anderson, prix Nobel, était sûr que c'était vrai. Il le croit d'ailleurs toujours plus ou moins, bien que je lui ai beaucoup expliqué que non, je ne crois pas que ce soit vrai. Bon. Mais enfin bref, devant l'agitation de tout le monde, il se trouve que ce matériau qui pouvait être à la fois solide et liquide, c'est le même hélium dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ce coup-là sous forme solide. Alors les cristaux d'hélium, ça n'existe qu'à très très basse température, hein, donc c'est ce qu'on sait faire. Hein. Il se trouve que j'ai longtemps étudié leur forme. Alors, j'ai trouvé, par exemple, il y a quand même un certain temps, mais bon, les raisons pour lesquelles... alors, ces températures sont très froides. Hein. On s'approche du zéro absolu où toute la matière s'arrête. Alors,
ça, le zéro absolu, ça correspond quoi en degrés Celsius?
Alors, c'est moins 273,15 degrés ordinaires, dit Celsius, donc c'est très froid. On ne peut pas aller plus loin parce que la matière va de plus en plus lentement, plus c'est froid, puis elle s'arrête à une certaine limite, bon, qui se trouve être moins 273,15. Et nous, on arrive à moins 273,14. Donc, vous voyez, on est très très près de ce zéro absolu. Et donc, très basse température, on est les champions du monde. Je dis ça pour rire, mais c'est un peu vrai, remarquez. Bon. On est les champions du monde de la croissance et de l'observation de ces cristaux parce que non seulement notre admirable réfrigérateur, que par amour on appelle notre frigo, non seulement ce frigo nous permet d'arriver à des températures vertigineusement froides, mais il y a des fenêtres, hein, des petits hublots, on regarde au travers, on met de la lumière, on regarde la forme de ces cristaux, on les regarde bouger, croître, fondre. Et c'est très important parce qu'on voit dans quel sens ils sont. Vous voyez, si vous avez déjà regardé des aiguilles de quartz, par exemple, parce que moi j'aime bien les aiguilles de quartz chez les marchands de minéraux ou en montagne, c'est des aiguilles avec six facettes pointues et puis aussi six facettes parallèles qui font le corps de l'aiguille. Bon. Et vous voyez bien que la pointe, elle est dans une certaine direction. Bon, et donc vous savez dans quel sens le cristal de quartz est orienté. Bon, eh bien on fait pareil, on regarde la forme de nos cristaux pendant leur croissance. C'est pas des aiguilles, mais c'est un peu des prismes hexagonaux, un peu du même genre. Et donc, on en déduit dans quel sens ils sont. Et pour s'étudier ce genre de propriété, ça s'est avéré absolument essentiel. Et donc, sachant un peu comment manipuler, faire croître, observer des cristaux d'hélium à travers les fenêtres de mon frigo, j'ai été incité alors par un autre prix Nobel, avec qui j'avais une relation d'amitié très profonde et pour qui j'avais énormément d'admiration, qui était Pierre-Gilles de Gennes, qui nous a malheureusement quittés en 2007. Il est mort d'un cancer. Bon. Et donc, un an avant de mourir, en gros, Pierre-Gilles de Gennes est venu me voir et m'a dit « Écoute, moi j'ai une autre idée sur ces cristaux, c'est pas possible, ils peuvent pas être à la fois superfluides et cristallins, donc solides ». Alors, il avait toute une théorie, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, c'est lui qui m'a donné envie de me jeter dans la compétition internationale qui démarrait à cette époque entre rapidement une vingtaine d'équipes dans le monde, des Américains, des Japonais, des Anglais, principalement, des Français, puis encore plein d'autres, pour comprendre si, oui ou non, c'était possible qu'un cristal d'hélium soit à la fois cristallin, donc élastique, et puis fluide, capable de couler. Alors, le livre raconte toutes les difficultés qu'on a rencontrées, les désespoirs, mais la nécessité d'avoir de l'argent pour faire grossir un peu mon équipe, parce qu'à deux, on n'y arrivera jamais, le tâtonnement, le désespoir, encore une fois, qu'on avait, parce qu'on ne comprenait rien, que ce n'était pas du tout ce qu'avaient observé les autres, que c'était absurde, que ça marchait pas, qu'un jour ça fuit, ça a failli exploser.
Oui, on comprend la lecture qu'il faut de la persévérance. Hein.
Il faut avoir envie, ouais. Il faut avoir envie. Et donc, il y a justement, bon, au lieu de raconter tous les détails de mon histoire, enfin, je termine quand même. Oui. En gros, on a fini, au bout de 6 ans d'efforts, par trouver l'explication de tout ça, qui est autre chose. Si on cherchait quelque chose, on a trouvé quelque chose d'autre. Et je tenais beaucoup à expliquer ça, c'est que la démarche scientifique, c'est pas tout prévu à l'avance. C'est pas entièrement planifié, c'est pas vrai. Ça dépend peut-être un peu de ce qu'on fait, mais heureusement d'ailleurs qu'on trouve pas toujours que ce qu'on cherche, parce qu'autrement il y aurait pas ce plaisir de la découverte. Hein. Mon truc, c'est un peu un rang policier, en fait. Je cherche à résoudre une énigme et puis je trouve autre chose. Bon. Et je crois que cette part, cette manière de progresser, de créer des connaissances, qui n'est pas linéaire, qui n'est pas entièrement programmée, qui nécessite une certaine liberté de travail, c'est important de la comprendre. C'est important de comprendre aussi... à quel point on vérifie, on doute, on recommence, on essaye de reproduire, on voit si d'autres sont d'accord, afin que cette connaissance qu'on a créée soit solide quand même, que ce ne soit pas n'importe quelle opinion. Dans nos conférences, je m'éloigne, mais c'est tellement important que j'ai envie de vous dire ça, dans nos conférences, parce que on produit des connaissances, on a trouvé une idée, on a fait une mesure que d'autres gens n'avaient pas faite. On produit deux choses, on fait des conférences où on explique devant nos collègues du monde entier ce qu'on a fait. Puis on écrit des articles où on fait la même chose, mais sous forme écrite. Hein. Et là, on est face à une sorte de jury, quoi, de scientifiques qui sont tous nos collègues, qui sont sceptiques par définition. Mais c'est rigoureux, donc on finit toujours par se mettre d'accord. Bon. Et donc, la manière dont ça se passe est très, je trouve, très intéressante. On est dans un milieu compétitif, on n'est pas sûr d'avoir raison, on vérifie, on progresse, et puis un jour, la vérité sort, quoi. C'est clair que c'était ça. Mais plus tard, on va recommencer à se poser des questions. Donc parfois, on remet en question et on améliore encore la connaissance qu'on avait établie. Voyez. Et tout ça, je crois que c'est important de l'expliquer et que cet exemple était assez, assez clair de ce point de vue-là. Vous voyez.
Oui, on sent qu'effectivement, vous êtes à la fois en compétition, c'est très clair. En compétition, d'ailleurs, ce qui vous pousse d'ailleurs à vous imposer des délais, à rechercher des moyens supplémentaires pour gagner cette compétition.
Oui.
Et en même temps, vous êtes dans un milieu qui à la fois se juge, mais est aussi dans la coopération. Ça nous amène à ce mot qui est un petit peu à la mode, de coopétition.
Oui, coopétition, les gens disent ça.
Oui.
Ah, c'est un mot valise, ça encore.
Oui, c'est,
c'est une très bonne question, merci. Parce que, vous voyez, je crois qu'il y a une différence, mais à plusieurs, mais il y a une différence fondamentale, très utile, à nous, une différence fondamentale entre la connaissance scientifique et la connaissance qui ne l'est pas. Il y a dans différents domaines de la connaissance, des débats sans fin, parce que les gens ont des opinions, qu'ils les confrontent, mais qu'il y a très peu de moyens de savoir rigoureusement qui a raison. Alors, les sciences naturelles telles que la physique sont des sciences rigoureuses au sens de Popper, c'est-à-dire qu'elles sont réfutables parce que les modèles qu'on fait pour expliquer quelque chose qu'on a observé sont capables aussi de faire des prédictions. Ils vous disent, changez la température de votre cristal, tel effet doit évoluer de telle manière. Et puis on calcule le changement qui va être la conséquence de telles conditions différentes. Et donc on vérifie, et puis ou bien on trouve que c'est conforme à ce qui était prédit, donc ça va, on continue, on va continuer à mettre en doute, mais la théorie se renforce, le modèle a l'air effectivement solide, vrai, tout ça. Ou bien on s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'on avait prévu, alors il faut modifier quelque chose, et à ce moment-là, le modèle progresse.
Oui, donc c'est plus intéressant, en quelque sorte, d'échouer.
Oui, d'un certain côté, bien sûr, oui, c'est beaucoup plus intéressant que de vérifier ce qu'on savait déjà. Et de ce point de vue-là, la physique que je pratique a quelque chose d'un peu moins prédictible que certains autres. Par exemple, il y a des gens qui mesurent les constantes universelles, par exemple la valeur de la gravité, ou il y a des choses plus subtiles, ou la vitesse de la lumière, oui, enfin ça c'est devenu une constante imposée. Bon, je sais pas, c'est pas facile pour moi là juste tout de suite de trouver la constante de structure fine, ça vous dit rien quoi. La constante de Rydberg non plus, donc mais les gens mesurent ces constantes hein, qui sont à la base de toute la physique, par exemple. Hein. Et maintenant, avec une précision absolument affolante. Ils ont des nombres avec 17 chiffres significatifs qui sont le résultat de leur mesure de la valeur de ces constantes fondamentales. Bon. Alors moi, ça a passé ma vie entière à rajouter un chiffre à une constante, à un nombre qu'on connaît déjà avec une énorme précision. Je crois que ça ne m'aurait pas beaucoup amusé. Et donc effectivement, je suis un peu rebelle, alors ça va bien avec. Donc j'ai passé de nombreuses décennies, c'est pas fini, heureusement, à essayer de trouver des choses qui étaient mal comprises, parfois fausses. Et c'était un peu ça, d'ailleurs, cette histoire de supersolidité. J'ai passé 6 ans à montrer que quelque chose qu'on croyait vrai était faux, et puis qu'en fait, c'était autre chose qui est non moins intéressante. C'est une histoire de plasticité, ça me rapproche des métallurgistes, vous voyez. Alors, comme je dis aussi de temps en temps, je ne vais pas déposer pour autant un brevet pour reconstruire la tour Eiffel, mais ce que je fais sur la rigidité des cristaux, ça a une valeur importante dans la compréhension de la manière dont un solide se déforme quand on appuie fort dessus, ce qui est le cas dans des édifices comme la tour Eiffel, mettons, qui heureusement tient le coup, et qui n'est pas forcément le cas pour des cristaux bizarres comme les miens. Et donc d'avoir compris pourquoi, ça intéresse justement les métallurgistes. Vous voyez, donc il y avait un côté de découverte inattendue là qui était délicieux. Oui. Une fois que j'avais trouvé, parce que pendant les 6 ans, on a quand même souffert. Mais...
Ce qui nous ramène aussi à l'éternel débat, mm-hmm. qui prend une... intensité particulière en France, entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée.
Oui.
De nombreuses voix s'élevant pour que la recherche appliquée, dont on oui. se compte qu'elle apporte davantage de développement économique, de croissance, d'emploi et autres.
Oui, bien sûr, oui. Oui, dans ma description des différentes manières de faire de la recherche tout à l'heure, j'avais parlé du nombre de gens impliqués, de savoir si c'était un peu du bricolage artisanal ou de l'industrie. Il y a aussi le décryptage, le déchiffrage, comme on dit, du génome humain, des choses comme ça. Mais je n'ai pas parlé de deux choses. D'abord, il y a des expérimentateurs et des théoriciens. Bon, donc vous avez compris que moi, je faisais des expériences. Bon, il y a d'autres qui préfèrent les modèles, les équations, qui sont vraiment plus avec un papier, un crayon, ou un ordinateur, bien sûr. Mais effectivement, comme vous le dites, il y a une question de finalité. Donc, il y a de la recherche fondamentale, et puis il y a de la recherche appliquée qui va servir à construire des produits commercialisables ou simplement à améliorer la manière dont fonctionne la société, par exemple. Bon. Et donc, la recherche peut être fondamentale ou appliquée. Alors, pendant longtemps, surtout dans ma jeunesse, c'est-à-dire les époques rebelles, mettons de mai 68, etc., on considérait que faire de la recherche appliquée, c'était s'allier aux industriels. Quand on était gauchiste, on considérait que c'était le diable en personne, c'était vendre son âme, enfin bref. Bon. Heureusement que tout ça a disparu et que, enfin, en général, il doit y avoir quelques réfractaires, et que maintenant, on est conscient du fait que si la recherche a des applications, tant mieux, formidable. Moi, j'aurais bien aimé découvrir quelque chose de tellement important et tellement utile que ça servirait dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas très loin, j'ai des relations avec des gens multiples qui ont des contrats avec des industriels et qui finissent par construire des choses utiles. Je pourrais vous citer plein d'exemples, depuis vos appareils photos jusqu'à disque dur de votre ordinateur. Tout ça a été amélioré par des amis proches qui ont appliqué leurs idées. Alors, ceci étant, pour continuer à essayer de répondre à votre question qui est très importante, hein, c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent que payer des chercheurs, il faut que ce soit rentable. Hein, et donc, il faudrait subventionner essentiellement la recherche appliquée. Alors ça, je crois que c'est un très très mauvais calcul. Hein, parce que quand on y regarde de près, on s'aperçoit bien sûr qu'on n'a pas découvert le laser qui a complètement envahi la médecine, la technologie, plein de choses. Bon. La chirurgie laser des yeux, mais c'est extraordinaire ce qu'ils font, absolument incroyable. Bon. Les gens qui ont inventé le laser n'avaient aucune idée de la chirurgie des yeux. Ils ont encore moins inventé le laser pour améliorer l'éclairage en trafiquant des bougies, quoi, ou même des lampes à incandescence. Pas du tout. C'est arrivé, personne ne s'attendait à ce qu'une découverte comme ça, qui devait avoir avec les propriétés fondamentales de l'interaction entre la lumière et les atomes, pourrait avoir des applications quelconques, surtout pas... Enfin, j'ai des tas d'exemples. L'épilation définitive, les salons de beauté, on fait ça au laser. Vous voyez, bon, c'est vraiment, vraiment loin des préoccupations des gens, des physiciens de l'époque. De même, toute l'électronique, hein, qui quand même, comme vous le savez, a révolutionné tout notre environnement, notre façon de vivre et même de penser. Les ordinateurs, les téléphones, tout ça, les écrans, enfin bon, c'est absolument, on en a partout, on peut plus, on en a besoin. Bon, ça n'a jamais été découvert en améliorant les lampes triodes qu'il y avait dans les postes de radio dans les années 50, vous voyez, ça n'a rien. Bon, et donc, s'il n'y a pas une recherche fondamentale qui n'est pas dirigée vers des objectifs prédéterminés, il n'y a pas de rupture technologique, hein. Il n'y a pas ce progrès magnifique. Enfin, ça a aussi des effets secondaires parfois néfastes, le progrès. Bien sûr. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles la science n'a pas toujours tellement bonne presse. La science a aussi mené à la bombe atomique, quoi. Disons les choses carrément. Non. Alors, c'est pas les scientifiques. Enfin, c'est très compliqué, cette histoire. Bon, on ne va pas parler de ça peut-être aujourd'hui. Mais, quoi qu'il en soit, moi je crois qu'on vit mieux en ayant amélioré les connaissances qu'en plongeant dans l'obscurantisme pour ne rien savoir. Et donc il faut développer la connaissance tout court, hein, et puis tant mieux si ça aide la population à vivre mieux, vous voyez. Donc je suis pour, absolument pour développer les applications, même si j'ai pas réussi à le faire moi-même. J'essaye de résumer, mais je crois que pour ça, il faut une recherche fondamentale en amont, qui soit forte, libre, vraiment originale. Vous voyez ce que j'essaye de dire?
Je vois très bien. et c'est bien écrit dans votre ouvrage. À l'instant, vous avez parlé du rapport de la société à la science.
Oui.
En considérant que c'était peut-être pas le sujet de l'émission, mais si ça l'est, je vous pose la question.
Non. Oui.
Comment vivez-vous en tant que chercheur cette sorte de désenchantement ambiant à l'égard de la science, mais peut-être du progrès en général?
Merci
Est-ce
beaucoup.
Qu'il est ressenti? Oui.
Ce dont j'avais pas envie de parler, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais c'est qu'on peut pas parler de tout dans cette interview. C'était du problème particulier de la bombe atomique et de la façon dont ça a été construit, etc. Parce que là, ça va nous emmener beaucoup trop loin.
Ah, oui, oui.
Mais ce que vous dites est absolument crucial, bien sûr. Pourquoi est-ce que je regrette tant que la science et les scientifiques aient une mauvaise image dans le public, hein? Et pourquoi j'ai écrit ce livre, justement pour qu'on comprenne mieux la manière dont ça se passe, afin d'avoir confiance en les chercheurs, en les scientifiques, en les experts scientifiques, hein, au lieu de se méfier d'eux, comme c'est malheureusement très souvent le cas. Bon. Par ignorance, les gens ont peur, parce que c'est aussi entretenu par différentes sortes d'officines de propagande de toutes sortes. Bon. Eh bien, c'est bien sûr parce que nous sommes face, dans cette société actuelle, à des problèmes qui sont, à mon avis, extrêmement graves, mais très difficiles. Alors, il y a bien sûr, au premier rang desquels, un problème sur lequel je travaille, en particulier à l'Académie, avec acharnement, c'est le triple problème climat, énergie, environnement. La Terre se réchauffe. Pourquoi ? Qui est responsable ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle transition énergétique mettre en place ? Comment se mettre d'accord avec les autres pays à l'échelle du monde ? Nous travaillons d'arrache-pied au niveau de l'Académie des sciences sur ce problème, dans deux comités différents. Nous venons de publier un avis sur la transition énergétique. On en prépare un autre. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est très complexe, ce problème. C'est très difficile. Il y a des milliers de climatologues qui travaillent depuis déjà 1980, donc ça fait 35 ans, sur la réalité du réchauffement climatique, ses causes et les remèdes éventuels. Sans avis d'experts, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Comment voulez-vous que les gens comprennent s'il vaut mieux construire des éoliennes ou revenir au charbon, ou arrêter de manger, ou avoir un peu de nucléaire, plus ou moins, ou etc. Bon. Il faut de l'expertise. Et l'expertise scientifique n'a pas bonne presse. Les gens n'ont pas confiance. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la science, ils ne savent pas comment travaillent les scientifiques. Et des problèmes comme ça, il y en a plein. Les OGM, la vaccination, les micro-ondes. Ma boulangère, la semaine dernière, m'a dit « Ah non, les micro-ondes, il ne faut pas s'en servir, même pour réchauffer votre café au lait le matin, parce que ça émet des ondes radioactives. » D'abord, les ondes radioactives, ça ne veut rien dire. Ensuite, il n'y a aucun rapport entre un four micro-ondes et c'est de la lumière un peu plus loin que l'infrarouge. Bon. Qui est absorbée par l'eau, ça chauffe, quoi. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la radioactivité. Bon, mais elle le croit. Elle l'a lu, entendu sur Twitter, je ne sais pas, moi, Facebook, hein, bon, à la radio, peut-être, tout simplement. Les gens ont peur. Alors, ils ont peur de l'antenne de radio qui relaie leur téléphone, mais ils mettent quand même leur téléphone sur leur oreille. Alors, je leur dis, mais votre téléphone, il ne vous chauffe pas vraiment la tête. Hein, et pourtant, c'est le seul effet qu'il peut y avoir de votre téléphone. Donc, l'antenne qui est à 500 mètres, encore moins. Bon. Mais pour convaincre ces gens-là, c'est difficile. Donc, bref, je crois qu'on a besoin d'experts dans le monde contemporain, parce qu'on est face à des problèmes extrêmement graves. Pour moi, celui dont je m'occupe, c'est l'énergie, le climat, l'environnement. Que face à ces problèmes, sans ingénieurs, sans chercheurs, sans expertise scientifique, y compris en économie d'ailleurs, bon, on ne sait pas quoi faire. On va faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, bon, je vais m'avancer, mais tant pis. En ce moment, la France et l'Allemagne ont des politiques en matière d'énergie qui s'appellent la transition énergétique en France et l'Energiewende en Allemagne, qui me semblent absurde. C'est vraiment pour des raisons électoralistes, c'est-à-dire savoir s'ils vont plaire au maximum de gens en prenant telle ou telle mesure, que ces décisions ont été prises. On essaye de se faire entendre. On n'est pas les seuls. On ne nous écoute pas. Et donc je crois qu'il est absolument crucial, à une époque où le climat est en train de basculer vers un inconnu extrêmement grave, d'essayer de remonter l'image de la science et des scientifiques et de redonner confiance en la population, y compris bien sûr aux hommes politiques, en l'expertise, en la connaissance, vous voyez. Et donc, mon livre, qui peut avoir l'air d'un petit roman policier comme ça, en fait, il a cet objectif en arrière-fond du décor, bien sûr. Oui,
oui, à la fois revaloriser l'expertise scientifique, expliquer comment elle fonctionne, mais aussi un petit peu la démystifier. C'est-à-dire que le chercheur devient quelqu'un de beaucoup plus proche à la lecture de votre ouvrage.
Oui, j'espère.
On a un peu l'impression que, voilà, que c'est un être un peu à part, qui vit dans un monde parallèle.
Oui.
Et on vous voit évoluer avec aussi des considérations, des problèmes qui sont ceux.
Oui.
Voilà,
Est-ce que je vous ai un peu convaincu que je suis quand même un homme relativement normal
Le livre m'avait convaincu, mais maintenant que je vous en fais, Thomas, je vous écoute encore plus. Mais on vous découvre effectivement, il y a des problèmes de budget.
Bien sûr.
Des problèmes matériels au sens financier du terme, mais aussi des problèmes matériels au sens physique.
Puis des problèmes humains, parce que je travaille avec des jeunes chercheurs qui n'ont pas, qui sont dans l'instabilité de l'emploi, travaillent dans des conditions difficiles. J'ai des tas de problèmes qui sont des problèmes de la vie courante. Je suis quelqu'un d'ordinaire, je ne sais pas trop, mais en tout cas d'accessible, et j'adore parler avec les gens, oui, bien sûr.
Et qui a du mal à joindre les deux bouts, en tout cas pour son laboratoire.
J'avais
cherché des financements.
J'avais énormément de difficultés, et d'ailleurs la majorité de mes collègues ont d'énormes difficultés parce que c'est la crise économique et que donc bien sûr le financement des recherches est difficile. Alors on m'a reproché de ne pas parler suffisamment. Mon livre n'est pas un tract de syndicat, hein, et il se trouve que j'ai réussi, parce que j'ai eu de la chance ou peut-être quelques bonnes idées, à décrocher un très gros contrat de recherche à Bruxelles qui m'a permis de faire tout ce que je voulais et de gagner la course contre mes compétiteurs. Et donc, j'allais pas cracher dans la soupe, comme on dit vulgairement. Vous voyez, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de moyens, et du coup, ça m'a permis de réussir.
Oui, dans un second temps.
Dans un second temps, parce qu'effectivement, pendant 20 ans, je ramassais les bouts de ficelle par-ci, par-là, pour essayer de faire quelque chose de bien quand même. Et autour de moi, même à l'École normale supérieure, qui est un endroit de très très haute qualité, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à financer leur recherche. Donc je le nie certainement pas, mais en racontant mon histoire, parlant de moi-même, je n'allais pas dire « écoutez, regardez comme je suis malheureux », parce que j'ai eu la chance d'avoir exceptionnellement un très gros contrat qui a financé toutes mes recherches, tout ça, qui m'a permis justement de gagner, quoi, d'y arriver, de comprendre avant les autres. Hein. Bon.
Non, puisqu'on est sur ce thème du manque éventuel de moyens qui frappe certains... Il y a aussi la description de la carrière qui est celle d'un jeune chercheur.
Oui.
Je veux dire qu'il donne absolument le vertige.
Alors, c'est compliqué. C'est une question, oui. Donc, ce qui me paraît le plus grave, c'est la difficulté qu'ont des jeunes étudiants devenus jeunes chercheurs et qui souhaitent infiniment consacrer leur vie à ce magnifique métier, la difficulté qu'ils ont à obtenir un poste, un travail, un emploi, et donc à travailler un peu tranquillement. Et donc, non seulement c'est difficile d'obtenir un poste au CNRS ou dans l'enseignement, dans les universités, mais en plus, ensuite, en début de carrière, ils sont quand même assez mal payés, quoi. C'est des gens qui ont bac plus 10, si ce n'est 11 ou 12, et qui commencent à 1800 euros par mois, en gros. Alors, ça augmente progressivement, mais quand même, une fois et demi le SMIC, c'est bien, mais pour des gens qui ont une qualification pareille, c'est quand même pas extraordinaire. Bon. Alors après.
C'est absolument scandaleux.
Oui, ben je vous laisse le dire. Mais ensuite, il y a quelque chose qui est un peu à double tranchant, comment dire. C'est le fait que on nous fait confiance, en particulier quand on a la chance d'entrer au CNRS, donc être chercheur à plein temps. Mais vous voyez, Monsieur le Président Sarkozy a ironisé sur les chercheurs qui étaient bien au chaud et qui, sous-entendu, ne faisaient absolument rien et étaient payés. Bon, c'était scandaleux de dire des choses pareilles. J'ai voulu montrer à quel point on s'acharne à trouver, à créer des connaissances. Et je dois dire que nous sommes contrôlés de manière extrêmement étroite, puisque au CNRS, c'est bien pire que de contrôler nos horaires. On contrôle que tous les ans, on a trouvé quelque chose. Et peu importe qu'on ait travaillé 5 minutes ou 24 heures sur 24, toutes les nuits, les dimanches, etc., comme c'était un peu mon cas dans toute cette période, il faut avoir trouvé quelque chose. On vous juge sur les résultats. Et tous les ans, il faut montrer qu'on a trouvé quelque chose. C'est dur.
Bon. C'est un petit peu absurde, non? Parce que prouver qu'on a travaillé et qu'on a cherché, je comprends. Mais être obligé de trouver,
mais ça,
prouver,
c'est pour vous parler de
c'est
la
autre chose.
C'est pour vous parler de la contrainte. Ceci étant, moi, j'ai eu l'impression, à force de faire mes rapports tous les ans, que s'arrêter une semaine pour faire le point, écrire noir sur blanc, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'aimerais trouver, mon plan de travail, ouais, c'est pas inutile, hein, c'est pas inutile, c'est pas si mal en fait. Hein. Et donc, finalement, cette contrainte, elle est dure. Hein. La compétition est difficile, c'est un métier difficile, mais ça peut se pratiquer.
Ce que je trouve curieux, c'est que ce soit une obligation de résultat et pas seulement de moyens. Vous voyez ce que j'ai dit ? Une obligation de moyens,
oui.
De démontrer qu'on, voilà, qu'on y a mis tout son cœur, qu'on a creusé toutes les pistes, qu'on s'est investi,
oui.
Je comprends. Mais
oui.
Par définition, comme vous dites, qu'on peut trouver des choses qu'on ne cherchait pas, comment dès lors faire quelqu'un de ne pas avoir trouvé quelque chose qu'il ne cherchait pas ?
Oui, j'ai eu un peu des difficultés avec ça d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on trouve autre chose. Bon. Et puis quand ils vous donnent beaucoup d'argent, ce qui était mon cas, par un hasard heureux, bon, ils ne sont pas prêts à admettre comme ça du jour au lendemain qu'on va se servir de l'argent pour faire autre chose. Hein. Ça, en principe, les bureaucrates de Bruxelles, excusez-moi pour eux, mais enfin, il y en a quelques-uns qui sont comme ça, ils ne sont pas prêts d'admettre qu'on aurait triché, par exemple, on ferait autre chose. Alors, j'ai argumenté, je leur ai dit, écoutez, voilà ce qui s'est passé, on était face à un mystère, on croyait que c'était ceci, on a trouvé que c'était autre chose. Donc, ils ont heureusement compris, parce qu'ils sont loin d'être bêtes, tout au contraire. Et donc, ils ont tout à fait admis que, finalement, je fasse de la métallurgie au lieu de faire de la mécanique quantique. Mais ce n'était pas absolument évident. Donc, votre remarque est effectivement bonne. En même temps, on ne peut pas non plus donner de l'argent à des gens pour qu'ils fassent n'importe quoi. Il y a une espèce de compromis à trouver. Et là-dessus, je pense que le jugement par les pairs, comme on dit, PAIRS, c'est-à-dire des collègues scientifiques, sont les seuls à être capables d'estimer si ce qu'on a finalement fait, même si on a changé de plan de travail, vous voyez, était intéressant, nécessaire, fructueux, ou si c'était qu'on est parti à la pêche, quoi. Vous voyez, on n'a pas été se payer des voyages pour faire de la pêche au thon dans l'océan Indien. Non, on s'est mis à regarder nos phénomènes d'un autre point de vue. Et on a trouvé quelque chose. Donc les experts, les scientifiques qui nous jugent étaient très contents. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de contrôle, même si moi je ne pars pas du principe qu'il faut se méfier des gens, surtout ces gens qui travaillent avec passion dans des caves toutes les nuits pour arriver à faire quelque chose. Mais ce n'est pas une raison non plus. Je voudrais qu'on leur fasse confiance davantage. Et ce n'est pas le cas. Souvent, la bureaucratie est là pour nous surveiller d'une manière pesante qui a plutôt tendance à nous empêcher de travailler que le contraire. Mais je ne suis quand même pas pour laisser tout le monde complètement libre. Non, ça me paraît pas possible. Ouais. Non, il y a ça, le système dériverait malheureusement. Ouais. Vous voyez ce que j'ai. Donc c'est contradictoire cette affaire. Au bout du compte, c'est clair que si vous voulez, par exemple, j'aime bien les chiffres simples. Il y a eu un accord à Lisbonne, je crois, comme quoi la société moderne avait besoin de moyens et qu'un ordre de grandeur typique de ce qu'une société devait consacrer au soutien à la recherche, c'était 3% du budget de l'État. Je crois que c'est ça. Bon. C'est bien. Bon, il y a des pays qui y mettent beaucoup plus, surtout des petits pays comme la Suisse, Israël, les Pays-Bas sans doute aussi. Bon, beaucoup plus que 3, ils ont 4 ou 5, je ne sais pas, pourcent. La France stagne à un petit peu en dessous de 2%. Ça ne va pas. Ce n'est pas assez. On a besoin de recherche dans toutes les disciplines.
Là, ça comptabilise la recherche publique.
Oui, je parle de la recherche publique. Mmh. Maintenant, la recherche appliquée dans l'industrie, alors ça, ce n'est pas mon domaine en principe, mais j'ai tout de même un peu l'impression qu'il y a de moins en moins de recherche et développement, la R&D, comme on dit, dans le privé, dans l'industrie, quoi, bon, ou d'autres domaines d'activité, bon. Et ça va pas. Une fois de plus, sans innovation, je pense qu'on reste sur des méthodes anciennes, sur des créneaux qui sont occupés par des pays gens ou des pays où la main-d'œuvre est moins chère, et l'activité industrielle ou économique s'effondre. Et après tout, c'est peut-être un peu ce qu'on voit en ce moment en France, non ?
Donc vous voyez. Il y a un certain hiatus entre le discours et la réalité. Hein, parce que expliquer que le salut par l'innovation, l'excellence, c'est le discours commun pour expliquer que c'est ce qui va nous permettre d'en sortir dans la mondialisation, dans cette compétition. Et une fois qu'on rentre dans
le réel, on s'aperçoit que ça suffit.
Les premiers budgets qui sont reniés.
Évidemment. Absolument, bien sûr, je partage tout à fait votre opinion. Maintenant, je ne suis pas ministre de l'éducation, de l'économie et des finances, pardon. Heureusement, ce n'est pas ma compétence. Et donc, il doit y avoir des problèmes que je ne connais pas. Je ne nie pas qu'on est dans une situation économique difficile. Mais je crois qu'une manière de s'en sortir, c'est effectivement la recherche et l'innovation. La recherche fondamentale et la recherche appliquée, les deux, quoi.
Et du côté des industriels, y en a-t-il qui contribuent encore, j'imagine, comme au 19e. Enfin, moi, j'avais lu il y a très longtemps, quand j'étais enfant, des articles sur les congrès de Solvay.
Ah oui, oui.
C'était quand même pas que de la recherche appliquée, les congrès de Solvay.
Je pense que c'était subventionné par le privé, mais que c'était des congrès de sciences fondamentales.
C'est ça.
Oui, bien sûr. Oui.
On retrouvait tous les grands noms de la science fondamentale.
Absolument. À l'époque, ils étaient un peu moins nombreux, donc on pouvait peut-être les réunir plus facilement. Mais ils parlaient de mécanique quantique, et la mécanique quantique, à l'époque, ça n'avait absolument aucune application. Aujourd'hui, c'est très différent. Toute l'électronique, tous les lasers, tout ça, c'est de la physique quantique. Mais il existe des choses semblables et il y a toujours, heureusement, des industriels ou des compagnies privées, disons, qui soutiennent la recherche de différentes manières. Ils peuvent en faire dans leur propre laboratoire, dans leur lieu, quoi. Bon, ils peuvent négocier des contrats pour une coopération avec des laboratoires publics, et ça, c'est très bien. Il y a des choses, c'est l'occasion, tiens, peut-être de vous dire ça. Avant de vous dire cette autre chose sur l'emploi des docteurs en sciences que je voudrais vous dire, je dois dire que les conférences internationales, petites, grandes, moyennes, un peu partout, heureusement, ça existe, bien sûr, il y en a énormément. On se rencontre très souvent. Tout le monde n'a pas les moyens, forcément, d'aller à une conférence qui est loin, mais quand même, en gros, il y a beaucoup, beaucoup de conférences. Mais ce que je voulais dire, c'était que, surtout en France, je crois qu'il y a un autre problème, c'est que c'est la valorisation nécessaire du diplôme de docteur en sciences. Parce que moi, je suis sorti d'une grande école, je ne suis pas contre les grandes écoles, c'est des endroits souvent magnifiques où on a un enseignement merveilleux. Souvent en France, les gens embauchent des ingénieurs, les compagnies industrielles, plutôt en fonction de l'école dont ils sortent, eux-mêmes. Ça leur donne je ne sais quelle espèce d'esprit de corps en commun, je ne sais pas trop. Bon. Au lieu d'embaucher des docteurs en sciences. Et donc la différence entre un ingénieur fraîchement sorti de son école d'ingénieur ou un étudiant d'université qui vient d'obtenir sa maîtrise, pas seulement sa licence, c'est que pendant 3 ou 4 années de recherche pour obtenir un doctorat, on a été obligé de se poser une question soi-même au lieu d'essayer de répondre à une question faite par d'autres dont on sait qu'il y a une réponse qu'on connaît. Le professeur, il connaît la réponse au problème qu'il pose. Bon, il n'y a pas de mystère là-dedans. Il suffit juste que l'étudiant essaye de répondre correctement à la question posée. Se poser soi-même une question que personne d'autre ne s'est posée avant, c'est une autre entreprise. Bon. Et puis ensuite, faire comme je le raconte dans mon livre, c'est-à-dire passer des journées, des semaines, des mois, des années à se ravager pour essayer de comprendre dans quel sens prendre un problème qui est mal posé par définition, et finalement s'en sortir, ça, c'est terriblement et magnifiquement éducatif. On sort de là avec une formation extraordinaire, on a mûri énormément, si vous voulez. Du point de vue de son travail, on est devenu adulte et on était encore adolescent avant. Bon. Et ça c'est vraiment une qualité qui me semble valorisable dans le privé, parce que, encore une fois, il faut des idées, il faut faire de l'innovation. Alors en France, les docteurs et sciences, ça dépend des disciplines. Mais les docteurs et sciences, d'abord, je ne suis même pas sûr que dans les conventions collectives, le diplôme de doctorat soit vraiment reconnu, en tout cas pas à la valeur qu'il mérite. Et donc, les docteurs et sciences ont souvent du mal à se trouver un emploi dans l'industrie, contrairement à l'Allemagne qui embauche des docteurs sciences en particulier plein. Les États-Unis, pareil, le Japon, évidemment, les Anglais, tout ça, c'est des pays. L'internationalisation fait qu'il y a de plus en plus quand même d'ingénieurs qui préparent un doctorat. Mais quand même, c'est pas encore entré dans les mœurs. Moi, j'aimerais mieux que... Et puis en plus...
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, mais de oui. défiance mutuelle aussi, c'est-à-dire que,
de défiance mutuelle entre les ingénieurs et les docteurs en sciences. Si, oui, c'est possible. Il doit y avoir des problèmes psychologiques là-dedans. Je ne sais pas exactement. Ça mériterait une analyse fine. Si c'est vrai, c'est désastreux. C'est extrêmement dommage. Moi, je voudrais que tous les ingénieurs qui sont embauchés dans des services en particulier de recherche et développement, mais pas seulement. Je vois par exemple une société que je connais quand même un peu, bon, comme Saint-Gobain. Bon. Saint-Gobain, ils sont très malins. Ils inventent des nouveaux matériaux pour, je sais pas moi, l'isolation thermique des maisons, ce qui est un problème crucial en ce moment et qui sont des technologies qui ont énormément évolué. Pour les techniques de dépôt sur des verres qui permettent d'avoir des verres intelligents de différentes sortes. Tout ça, ça demande beaucoup de R&D, de recherche et développement. Eh bien, ils ont un directeur de la recherche, et je connaissais le précédent, qui était aussi un chercheur de grand talent, qui avait prouvé ses qualités comme chercheur. Ils embauchent des docteurs, et ça, c'est bien. Mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels je ne crois pas que ça se fasse en France, ou pas comme ça devrait, oui. Voilà.
Un autre problème auquel on semble être confronté, c'est une forme de désaffection pour les filières scientifiques.
Ah oui, ça c'est vrai, bien sûr.
En lisant votre livre, je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi oui. L'envie de redonner le feu sacré, le goût de
oui.
la science. À des...
Parce
que
oui.
je précise que c'est un livre qui peut être lu par toutes les générations.
Oui, mais c'est vrai, oui. Et ça faisait partie des défis qui m'avaient été présentés d'ailleurs. On m'avait dit, écoute, si tu peux... faire un livre suffisamment vivant pour que ça motive des élèves, ce serait bien de créer des vocations, quoi. Bon.
Non, justement,
eh bien, j'ai un peu réussi, hein, vous savez, parce qu'effectivement, j'ai rencontré pas mal d'élèves de lycée et même de collège à qui j'ai raconté tout ça. Et je voyais leur... et ils sont venus me voir, ou maintenant avec Internet, ils m'envoient des mails en me disant « mais je voudrais visiter votre labo, ça a l'air extraordinaire ». Oui, je suis content de ça, oui, c'est très important. Mais vous savez, non, je voudrais ajouter quelque chose avant d'oublier, c'est qu'il y a une désaffection qui est beaucoup plus grave et générale que pour la science. Je crois que c'est une désaffection pour la connaissance en général. Je ne sais pas très bien, enfin si j'ai une idée un peu malheureusement de ce à quoi pensent nos élèves des écoles à différents niveaux. Et je crains fort que ce soit des choses extrêmement superficielles qu'ils trouvent en pianotant sur leur iPad ou iPhone ou je ne sais quoi, sur leurs petits écrans, au lieu de lire, d'apprendre, de réfléchir, tout ça. Il y a à l'Académie des sciences les gens qui s'occupent du mouvement la main à la pâte, hein, en particulier Pierre Léna, qui a suggéré de rajouter, vous savez, au mot d'ordre qui était à l'école « apprendre à lire, écrire, compter », il voulait rajouter « raisonner », lire, apprendre, compter et raisonner. Magnifique initiative. Est-ce qu'on apprend à raisonner en classe dans les écoles modernes? Je crains que ce soit de moins en moins. Et puis, les professeurs dans ma famille ou de mes amis que je connais se heurtent à des difficultés de ce métier qui sont absolument épouvantables. Ils ne font pas vraiment de l'instruction, mais de l'éducation. Ils apprennent à leurs élèves un peu de civilité, ne serait-ce que écouter au lieu de faire je ne sais quoi. Je ne sais pas si
mais
vous
ça,
avez
le
vu.
Mais le constat est général. Ils sont. Ils
et donc la
faire
connaissance.
Du savoir-être plutôt que des connaissances ou du savoir-faire. Ça, c'est
voilà. Oui. Et donc, la connaissance dans tout ça, ça s'éloigne. Et si l'éducation s'effondre, alors là, vous allez me rendre... Mais je suis effectivement un pessimiste, même si mon travail m'enthousiasme. C'est là aussi qu'il faut donner l'envie. Mais
il y avait un autre aspect derrière la main à la patte, c'est l'aspect ludique. Il voulait remettre un aspect jeu et manipulation qu'on retrouve dans votre métier ensuite. C'est-à-dire qu'il y a un aspect... Moi, j'ai retrouvé
pratique,
en lisant pratique, concret... où on manipule, il y a un aspect mécano. Moi, j'ai retrouvé en lisant votre livre les émotions que j'avais pu avoir quand j'avais reçu ma mallette du petit chimiste.
Ah bon?
Et ça remonte à un certain nombre d'années. Mais je me suis dit, tiens, finalement, c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, avec des moyens et des connaissances bien supérieures à celles que je pouvais avoir à l'époque.
Non, mais il n'y a pas de supérieur.
Mais la démarche semblait quand même la même. On essaye, on tente, on essaye de reproduire des choses parce qu'on avait un petit livret. Et finalement, lorsque vous disiez, voilà, il y a un modèle, il faut le reproduire in concreto, eh bien, ça ressemble à cela, ce métier. Quand vous parlez de votre frigo, vous dites, ah, j'allume la lumière, il y a toute la lumière qui clignote, il est beau comme un sapin de Noël. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi ce type de discours qu'il faut tenir à un enfant aujourd'hui, un collégien ou un lycéen, lui expliquer qu'il va prendre du plaisir. Parce que si on s'en tient au traitement des chercheurs, tel que vous l'avez défini, ça ne va pas déclencher des vocations en masse. Mais en revanche, on sent qu'il y a du plaisir, de l'amusement et même du jeu.
Mais dites-moi, vous m'avez merveilleusement compris, hein?
Non, mais écoutez, redites-le à nos auditeurs. Dites-le à nos auditeurs avec un petit peu de chance. Et je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Parlez-nous un petit peu du plaisir que vous avez eu et que vous avez encore
à chercher. C'est un peu ce que je raconte d'ailleurs, mais brièvement, parce que le format était limité. À la fin du livre, je suis curieux. Bon. J'ai toujours envie de... Je regarde autour de moi, même la couleur de tapis de cette table, ça m'intéresse. Bon. Ou là, pour la raison pour laquelle l'eau de cette bouteille de Vittel est en train de gigoter, ou votre enregistreur la clignote, là, ça m'intrigue. Ça, bon. Vous voyez, je suis curieux. Et donc, comme le dit admirablement Marie Curie dans un petit extrait de son discours que j'ai aussi mis dans le livre, la curiosité, c'est une qualité extraordinaire. Quand on est curieux et puis qu'on trouve quelque chose, c'est absolument délicieux. Alors, faut beaucoup s'acharner. Mais après tout, je sais pas, un enfant qui... Quand j'étais petit, je cherchais les fossiles et les papillons. Je me donnais du mal. Bon, je courais après les papillons, je grattais par terre pour trouver une ammonite. Il faut se donner du mal pour avoir du plaisir, si je peux me permettre de dire ça. Et c'est grâce à ça que je ne me suis jamais ennuyé dans mon métier. J'avais des camarades de promotion, quand même, j'aurais pas pu être inspecteur des assurances. C'est sûrement un métier très important, mais ça, c'était pas mon caractère. Et donc, j'ai envie de dire aux enfants ou aux jeunes gens, c'est à condition qu'ils aiment un peu la science, que s'ils sont curieux et qu'ils ont envie de se donner du mal, ils auront une vie magnifique au lieu d'aller au bureau, aux heures de bureau. Tous les jours, ce qui est moins amusant, vous voyez.
Oui, parce que ça, c'est un autre aspect, c'est que c'est bien au-delà des heures de bureau.
Oui, ça dépend des jours. Je vais pas non plus prétendre. Mais enfin, il y a des moments où, effectivement, les 35 heures, je trouve ça assez ridicule, oui. Mais il y a aussi des moments où on a des compensations. Comme on n'a pas d'horaire, il m'est arrivé de prendre une semaine entière, d'ailleurs, même récemment, parce que j'étais entre deux travaux différents, pour aller visiter Grenade, Cordoue et Séville. J'ai pris une semaine entière. Bon, remarquez, c'était mes vacances. Et puis après tout, j'en prends moins que d'autres. Mais on a aussi des moments de liberté, vous voyez. Mais il faut aimer ça, faut aimer ça. Il faut être prêt à travailler dur.
Et le dernier aspect, peut-être pas conclure par cela, mais ce qu'on comprend également, parce qu'on a aussi l'image du chercheur qui serait dans sa cave ou dans sa soupente, isolé, tout seul, on comprend que c'est aussi un métier extrêmement relationnel, très diversifié. J'ai parlé des recherches de budget, mais aussi des relations avec les collègues, l'art de diriger une équipe multiculturelle, du reste.
Oui, bien sûr, oui. International, oui, oui. Ah oui, magnifique, oui, 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 oui.
Vos
très, très.
Étaient,
japonais, américain, oui, bien sûr, oui. On découvre avec intérêt, si on est un peu ouvert aux autres, on découvre des cultures différentes, des gens différents. J'ai des amis dans le monde entier. Là, ils m'ont appelé partout parce qu'ils ont lu les journaux sur la catastrophe qui venait de se passer à Paris. Oui, c'est très important. Maintenant, il y a plusieurs sortes de chercheurs, encore une fois. Moi, mon caractère est comme ça. Je suis curieux aussi des cultures différentes, des gens, comment ils sont, comment ils vivent. De quoi ils parlent, s'ils aiment faire du vélo comme moi ou pas, presque. Enfin bon, il y a aussi des chercheurs qui sont quand même, peut-être en particulier des théoriciens très profonds, qui rejoignent un peu le mathématicien isolé qu'est Andrew Wiles. Vous voyez, il y a aussi des gens qui sont...
Oui, vous êtes expérimentateur, vous l'avez dit.
Et puis je suis expérimentateur, donc effectivement j'aime le concret, j'ai besoin de collaborateurs, d'aide technique. Donc je suis davantage, sans doute, oui, dans les relations humaines que certains autres qui sont vraiment enfermés sur leur papier. Oui, oui, ça existe aussi, hein. Faut pas non plus...
Il faut tout pour faire un monde.
Espérons. Bon.
En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez lancer une dernière adresse à nos auditeurs et spécialement aux plus jeunes.
On a dit beaucoup de choses. Je crois que ce qui est bien, c'est de lire. Et donc, si la science les intéresse, il faut écouter des émissions comme la vôtre. Il faut lire des revues scientifiques. Il faut être un peu méfiant à l'égard de l'information qu'on trouve. Il faut se poser des questions. Et éventuellement, on peut envoyer, grâce au courrier électronique, des questions maintenant à qui on veut. Moi, je reçois plein de questions du monde entier, à la suite de mon livre, des gens qui me disent « Ah, ceci, pourquoi vous dites cela ?» ou alors des jeunes qui me disent « Comment est-ce que je pourrais faire pour faire de la recherche ? J'ai fait telle école. » Bon, j'adore ça, c'est très bien, allez-y, oui. Communiquez, lisez.
Je suis sûr que vous serez entendu, vous avez dit qu'il fallait lire, eh bien oui, il faut lire, et il faut aussi, si l'on s'interroge sur une éventuelle carrière de chercheur, si l'on s'intéresse à la science en général, ou tout simplement si on a l'esprit de curiosité, lire votre livre, dont je rappelle le titre, Chercheur au quotidien, par donc Sébastien Balibar aux éditions du Seuil, dans la collection Raconter la vie. Et de fait, il s'agit bien de cela. Merci, monsieur Balibar.
Merci à vous.